premier colloque du syndicat français des arts thérapeutes. Corps présent, corps absent en art thérapie. Vendredi 24 juin 2022. La visioconsultation en médiation art plastique par Emmanuel Césari, art thérapeute.
Je voudrais déjà vous remercier de m'avoir donné cette possibilité d'intervenir aujourd'hui. Et je voudrais remercier aussi, dans ce que vous appelez les spectateurs, les personnes qui sont là et qui ont participé à l'étude que je vais vous présenter. Donc, dès le mois de mars 2020, lors du premier confinement, j'ai suivi les ateliers de Alice Albertini, qui interviendra demain après-midi, qui est une Canadienne qui a fait des ateliers. Nous étions une centaine de personnes à suivre ces ateliers. Et ce que je trouvais tout à fait étonnant, c'est que, bon, il y avait évidemment des caméras coupées parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné, parce que quand on laisse sa caméra ouverte, on prend de la bande passante. Et il y avait aussi des personnes que on se voyait travailler, mais il n'y avait pas d'échange. Et je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire en reprenant ces ateliers contre la peur de la COVID en individuel. J'ai demandé alors des autorisations à Alice Albertini, et c'est ainsi que j'ai monté un protocole. Sur 10 séances, les 10 séances ont des consignes qui ne sont pas toutes celles d'Alice, hein. Il y en a de moi et il y en a d'une autre art thérapeute. Alors, il faudrait que j'aille dans le bon sens. Alors, j'ai coupé mon étude. Alors, bon, et je vais développer avec vous le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la relation en ligne, qui est un nouveau cadre d'écran à écran. Alors, l'adaptation des cadres thérapeutiques. Après, on parlera beaucoup de la séance 10, parce que c'est une séance que j'ai intitulée « Écran à écran », en contrario du face-à-face. Et je demanderai aux personnes, je demande toujours aux personnes, dans un questionnaire de faire créatif, qu'elles essaient de développer ce qu'elles ont ressenti dans ce cadre d'écran à écran. Et là, dans cette conférence, je vous donnerai quelques témoignages. Alors, le contexte de l'étude, donc, c'est de mettre en place ces séances pour aider les gens contre la peur de l'anxiété, contre la peur de la pandémie. Ce PowerPoint, si vous voulez bien, vous pouvez le distribuer. Moi, ça ne me dérange pas parce que tout le travail que je fais ne doit pas rester coincé chez moi. C'est vraiment pour aider les arts thérapeutes. Et nous sommes en séance avec des arts thérapeutes. Donc, si ça peut vous aider vous-même à monter, parce qu'on va rentrer certainement, vu qu'on est de nouveau en recrudescence de COVID, on va encore rentrer dans des choses un peu particulières. Donc, n'hésitez pas à reprendre tout ce que vous voulez vous-même pour sur le travail que je présente là, pour faire votre propre travail. Moi, ça ne me dérange pas du tout. J'estime que mon travail doit être partagé. Donc, je mets plusieurs références de personnes qui ont travaillé sur la question. Et donc, ça, vous les retrouverez. Ensuite, moi, je suis rogerienne, c'est-à-dire que je pars de la relation d'aide. Oh, pardon. Et après, je me sers du travail psychique de la transformation de Jung. Donc, je suis rogerienne et jungienne. Et on remarquera que dans les consignes, il y a plusieurs séances où le tout est basé sur le cercle. Donc, on part de tous les textes sur des mandalas de Jung, c'est-à-dire on retourne à soi, on se centre sur soi. Et la grosse question, c'est pourquoi ai-je peur? Et de quoi ai-je peur? Je vous présente ici l'étude telle qu'elle était au mois de septembre lorsque nous devions faire le premier colloque. Maintenant, j'ai plus de 50 personnes, mais j'aurai besoin de psychologues qui m'aident pour faire les évaluations. Pour chaque séance, je fais passer le test d'anxiété qui a lieu, l'état d'anxiété qui est marqué là. Donc, je le fais passer avant et après la séance. Il arrive que des personnes soient plus anxieuses à la fin de la séance. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'appelle, nous avons levé des lièvres. Alors, sur un protocole de 10 séances, c'est souvent à la cinquième séance qu'arrivent les moments les plus intimes avec des révélations. Je suis spécialisée dans le traumatisme et souvent des révélations de traumatisme. Les 10 séances permettent à la personne de faire un état de ce qu'elle aimerait travailler. Hein, et après ces 10 séances, elle peut demander de rentrer en atelier d'art-thérapie. À ce moment-là, on ne travaille plus la COVID, mais toutes les autres anxiétés qui sont apparues durant le déroulement du protocole. C'est une étude dans laquelle j'ai retenu 30 personnes. Là, à ce moment-là, il n'y avait que deux hommes. C'était pas très au point. Les hommes n'étaient pas très touchés par la COVID. Maintenant, j'ai à peu près la même chose entre les hommes et les femmes, à peu près le même nombre, toujours plus de femmes quand même. Et surtout, l'étude a évolué maintenant avec les personnes, c'est surtout celles-là que j'ai en ce moment, qui sont en COVID long. Et donc là, on a dépassé les 10 séances et on continue. Alors, je travaille sur une plateforme qui s'appelle BeMyPsy. BeMyPsy avait ouvert justement des ateliers gratuits et donc m'avait accepté. Bon, c'était rien que des psys, mais c'était bien parce qu'on avait des superviseurs, on avait des séances entre nous, des séances de supervision plus des superviseurs. Donc, des fois, quand ça n'allait pas, c'était assez facile. Sur la plateforme, on est toute une communauté. Bon, maintenant, BeMyPsy a cessé son activité suite à la grande chose qui a été lancée, des séances remboursées par la Sécurité sociale. Donc, comme il n'y a pas moyen de faire plus de 30 minutes de séance, ce n'est pas accessible aux art-thérapeutes. Et en plus de ça, ça ne donne pas assez de séances. Et les psys ont constaté que les gens préférer se précipiter sur ces séances qui avaient été mises en place plutôt que de venir sur la plateforme. Donc maintenant, la plateforme est passée chez psychologuedumonde.org. Donc je travaille avec psychologuedumonde.org. Ce que j'aimais bien aussi et ce que j'aime bien toujours parce que je travaille toujours sur cette plateforme, c'est qu'il y a toujours des psys derrière la mise en place de la chose privée, c'est-à-dire ils peuvent accompagner la personne parce que beaucoup de personnes ont peur de créer leur espace personnel, de venir, de prendre des rendez-vous. Derrière la plateforme, il y a des psychologues comme vous. Vous êtes là, l'équipe organisatrice derrière pour nous dire faites ci, faites ça. Donc, ce n'est pas comme un Zoom ou un Zoom classique sans. Disons que le cadre est posé et la personne est tranquillisée de par le fait d'être aidée. Donc là, on passe un peu carrément à la séance 10, je vous ai dit. Là, Cadix a représenté en séance 10, donc écran à écran, qui est un sujet libre, la salle d'attente de la plateforme BeMyPsy. Effectivement, si vous vous connectez à BeMyPsy, vous retrouvez les couleurs, mais elle a réimaginé les jambes. Et moi, ça m'a interpellée parce que tout le monde se retrouve en pantalon et on voit très bien bon, qu'il y a moi sur un divan et puis il y a elle sur l'autre divan. Donc, le fait de ne pas voir les corps ou de ne voir que des demi-corps, les personnes peuvent aussi extrapoler, réinterpréter les corps. Et ça m'a assez fascinée tout au long de cette étude, de voir qu'en fait, la vision de la moitié du corps pour beaucoup, ne posaient pas du tout de problème, puisque leur imaginaire imaginait le reste. Alors, ça me fait rigoler, parce que personne ne pouvait voir quand je suis en jupe, par exemple. Bon, alors, nous aborderons la question de la représentation de soi. Ici, Kadix a représenté le cabinet virtuel de Be Mimesy. Elle y a installé l'art thérapeute avec des jambes et elle-même sur le canapé d'à côté avec des jambes croisées. Isabelle Roy, 2012, page 80. Alors ça, toutes les références sont en fin de PowerPoint. Aborde ce sujet de la relation entre le virtuel et la créativité. L'introduction du virtuel en art thérapie n'est pas une simple adaptation de la pratique aux technologies nouvelles. Il existe un lien essentiel entre le virtuel et la créativité. Être dans le virtuel, c'est toujours créer une représentation de soi. Nous étudierons aussi l'approche de l'adhésion au cadre sur laquelle a travaillé Anne Boyer-Labrouche. Pour autant, ne pas aborder la question des mutations à apporter au regard des évolutions technologiques pose également la question de la continuité de l'adhésion au cadre pour les nouvelles générations. Là, il s'agit de la séance 10 de Larousse et Douce, qui est une artiste canadienne qui est venue sur les... Alors, toutes les personnes ont eu la COVID, hein, parce que ça, c'est... Bon, mais comme maintenant, à peu près tout le monde l'a eu, c'est plus facile de trouver des personnes. Au début, c'était difficile. Vous voyez, à chaque fois, c'est étonnant parce que les personnes représentent l'art thérapeute et elle. Et elle, elle a représenté donc, le passage entre le Canada et la France. On a beaucoup travaillé sur le lien et justement cette fascination par les nouvelles technologies de pouvoir travailler dans le monde entier. Hein. Là, j'ai eu énormément de personnes libanaises. Après l'explosion de Beyrouth, il y avait des anxiétés. Ce sont souvent des personnes qui ont eu plusieurs fois la COVID parce qu'elles étaient vraiment en problème immunitaire, disons pas immunitaire parce qu'elles avaient des problèmes immunitaires corporels, mais le psychisme était aussi atteint et la COVID a beaucoup sévi dans les milieux libanais. Alors, Larousse est douce, elle est québécoise, elle nous a rejoint à la suite d'une conférence exposant cette étude en vision conférence avec Montréal. C'est une des conférences organisées par Alice Albertini. Il s'agit de la fluctuation des expressions puis des émotions. Elle fait le lien comme connecté tout le temps entre le Québec et la France. Un mouvement de l'Amérique du Nord qui semble plus figé sur les écrans européens. Les visages expressifs de la COVID, de la transformation et des émotions traversent l'Atlantique. Et elle dira, j'ai eu envie de démontrer toute la fluidité des émotions qui découlent de ces 10 séances. Des émotions parfois difficiles à exprimer oralement, mais qui font un bien fou en les exprimant en création. Les drapeaux ont donné le ton aux couleurs choisies, le reste des couleurs représente l'espérance et la transformation. Je ne suis plus dans la peur comme au début, et cela fait du bien. J'ai senti une belle connexion s'établir entre nous deux malgré la distance. Là, c'est une jeune fille, là on est en France, et c'est une jeune fille qui n'a absolument jamais représenté tout au long des 10 séances les corps. Tout était symbolique. Donc vous voyez, il y a la partie art-thérapie, art-thérapeute, et la partie patiente. Et à chaque fois, elle était terriblement obsédée par l'œil de la caméra, parce qu'elle sentait qu'elle était observée. Et c'était quelque chose qui l'a dérangée, parce qu'au début, elle était très réticente. J'ai eu beaucoup de mal à la mettre dans le processus, et après, ça allait beaucoup mieux. Il y avait cette résistance parce qu'elle avait l'impression que j'entrais chez elle. Tandis que la webcam, objet supposément intrusif et technologique, est représentée avec une certaine corporéité, l'œil, les personnes, elles, sont représentées comme des objets. Mais lorsqu'on interroge Picture à ce sujet, elle précise bien qu'elle n'a jamais été à l'aise avec la représentation des personnages. Cette forme est donc un prétexte et finalement facilite la représentation des personnes présentes en séance. D'ailleurs, moi aussi, je me suis représentée comme un ordinateur, dira-t-elle. Enfin, on remarquera que la représentation, bien qu'empruntant la forme objectale, respecte la hiérarchie thérapeutique. Lors de ces séances, Picture est accompagné à la fois par l'art thérapeute et par une stagiaire en art thérapie. Chacune prend donc l'apparence d'un objet différent. De même, les couleurs employées, bleu, jaune, vert, traduisent bien les éléments transférentiels. Jaune côté thérapeute, bleu côté participante, donne du vert au niveau des échanges. Ensuite, Laura Lou, elle l'a représenté, c'est très étonnant, elle m'appelait la comédia dell'arte. Bon, c'est vrai que moi, dans mes ateliers, je suis assez joueuse et je fais jouer les gens. Elle avait cette impression qu'on était un peu en Italie, quand les dames, et on l'a vu ça au début des confinements, les gens parlaient d'un balcon à un balcon. Donc en Italie, les dames parlent de leur fenêtre à l'autre fenêtre. Et ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est quand même qu'elle nous a représentées toutes les deux de la même manière, habillées à peu près de la même façon, dans les mêmes couleurs. J'ai dessiné des personnages sans bras ni jambes, comme les poupées. On est comme des petites marionnettes dans nos écrans. Le théâtre à l'italienne, la commedia dell'arte, les fusions, l'émotion, c'est très vivant. Vous, avec vos lunettes, pour mieux voir ce qui n'est pas visible, j'ai toujours eu l'impression que vous me voyez, même quand la caméra est baissée. Je vous entends m'écouter, j'ai l'impression que vous avez une attention flottante tout en étant attentive. Alors, pour travailler, bon, on a une partie d'échange quand les gens veulent bien parler, parce que la séance peut être complètement sans parole. Je donne la consigne et après la personne se met à dessiner. Et quand elle se met à dessiner, je lui demande de baisser sa caméra ou son écran. Donc, je ne la vois plus. Mais ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que j'ai toujours entendu les gens quand ils pleuraient, quand il y avait des séances plus cathartiques. Et je vous dis, c'est souvent à la cinquième séance. Il faut à peu près 3 séances pour créer le transfert. Et après, à la cinquième séance, quand tout est bien établi, les personnes rentrent en catharsis. Alors, effet miroir des cheveux, ils sont semblables aux miens. Vous êtes toujours en violet, c'est ma couleur préférée. J'ai représenté l'art thérapeute un étage au-dessus de moi. Je vous vois en tant que thérapeute qui a une certaine connaissance et qui a un certain savoir. Donc, je suis consciente que mes dessins seront décryptés. C'est un peu comme l'archéologue, les anthropologues. Marie-Lou est un monde et on va y aller. Là, c'est Laïla. Elle est libanaise, cette jeune femme. Devant l'écran de l'ordinateur se met en place un théâtre où va se jouer une transformation. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je ne suis pas dramathérapeute, mais j'ai mis justement ces deux. Il y en a d'autres où à chaque fois les personnes, les patients, ou moi j'appelle ça des participants, font une expression théâtrale. Les bâtons en symbole de barreau qui enferment la personne qui n'est plus capable de changer. Pour certains, ces barreaux représentent une zone de confort, du tissu noir pour symboliser la douleur de la personne. Les bandes de tissu sont positionnées comme si les bâtons étaient un métier à tisser. La scène est figée, un petit bonhomme a décidé de casser tous les barreaux comme limite et de partir plus loin, il insuffle le mouvement. J'ai ajouté les deux mains qui symbolisent la présence de l'art thérapeute et l'importance de son rôle, soutien, contenance, et assurer un cadre sécurisant pour la personne. À la fin, j'ai ajouté avec le pastel sec des traits comme le toucher du clavier et le contour de l'écran. Elle a représenté l'ordinateur. Ce qu'elle voit, il y a le masque de la COVID. Bon, c'est une personne avec laquelle j'ai beaucoup travaillé cette année. Pareil, elle vient de Beyrouth et il y a eu la question de l'explosion de Beyrouth. Alors là, c'est Sonia. Elle parle du miroir. Donc, je lis son texte. Le miroir de soi et de chez soi, de soi à soi, le miroir transférentiel, qui est le miroir de la relation de soi à l'autre. Avec la relation, on a aussi sa propre image qui est réfléchie et révélée par le processus créatif de l'autre à soi. En référence à Winnicott, avec le visage de la mère, Lacan nous permet de voir le stade du miroir comme formateur de la jonction du je tel qu'elle nous est révélée dans l'expérience psychanalytique. Donc elle a travaillé vraiment sur les matières, les collages, et donc l'écran comme miroir. D'ailleurs, vous en avez plusieurs des écrans, et à chaque fois, elle met ce que ça lui a fait sur ses papiers collés. Ensuite, Mika est à La Réunion. Donc, vous voyez l'avantage du Zoom. Moi, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui critiquent énormément le travail à distance. Moi, ça fait plus de... Depuis 2011 que je travaille à distance, que je travaille sur des blogs. Et vraiment, je trouve une autre manière de procéder. Mais en tous les cas, le travail de l'art thérapeute est important dans le sens où il doit... créer le lien. Bon, il est évident que les séances d'art thérapie sont éreintantes parce que on a une attention flottante, je ne crois pas. On donne l'impression d'avoir une attention flottante, mais on doit justement, comme le disait la conférencière précédente, on doit faire attention au moindre petit bruit parce que sinon on a l'impression qu'il ne se passe rien. Moi, je voulais intervenir lors de la première intervention de notre neurologue. J'ai quand même un souci avec la musique à travers les écrans. On entend toujours très mal. Alors, je sais que je suis un peu sourde, mais là, il y a un souci qui évoluera avec la technique. Donc, on revient à Mika, qui habite La Réunion, et nous ne sommes pas dans le même espace-temps. Chacun est dans son réel et dans un espace dématérialisé. Le fait qu'il n'y ait plus de corps reste gênant pour moi, dit-il, qui suis habituée à rencontrer les personnes physiquement. Mon habitude de voir la personne et de sentir fait que la privation m'entraîne vers une abstraction de l'art thérapeute. Ça arrive très souvent, en fait, que le participant, après la séance, quand vous dites... est-ce que votre production touche à sa fin? On arrive à la fin des 2 heures. Moi, je fais des séances de 2 heures. Et la personne est surprise parce qu'elle m'a oubliée. Le processus s'est fait au doigt tel que dans l'espace de jeu de Winnicott. Donc, vous voyez les deux écrans, les deux personnages, la terre au milieu, un espace-temps dématérialisé. Alors, Manuel, ça a été assez extraordinaire. Manuel avait... pour les premières séances, beaucoup, beaucoup de réticences. Et puis, c'est une personne avec qui je suis restée en contact. Et l'échange a été très, très fort. Et donc, Manuel, elle est art thérapeute. Et elle a eu la COVID et ça l'a complètement ratatinée. Elle était en COVID long. Bon, je sais que maintenant, elle va beaucoup mieux. Je veux faire peur à personne, hein, mais le Covid long, c'est effrayant. Si vous prenez des personnes en Covid long, sachez que c'est pour longtemps. Parce que ce sont quand même des gens qui ne voient personne, qui sont chez elles, qui ont un mal fou à bouger. Alors parfois, elles sont très fatiguées, donc les séances sont écourtées. Elles peuvent ne durer qu'une demi-heure. Parfois, elles ont beaucoup d'énergie, donc là... moi, je ne rogne jamais sur le temps. Si je n'ai personne après, la séance dure plus de 2 heures. Si la personne en est capable, parce que le lien est très, très important avec les personnes en Covid long, parce qu'il y a une espèce de désespoir. Et le fait de la création leur redonne une autonomie, une indépendance. Et souvent, je donne à ces personnes-là un petit travail à faire entre 2 séances. Les séances ne sont pas forcément hebdomadaires, elles peuvent être plus rapprochées ou carrément reprendre 6 mois après quand il y a des traitements importants, ce qui est quand même le cas assez souvent. Il y a des personnes qui sont soignées dans le sud de la France, en Allemagne, et qui font... je ne sais pas comment elles font, d'ailleurs elles sont toujours accompagnées parce qu'elles prennent le train, c'est très éprouvant, donc là... on ne se voit pas, mais on se parle quand elles sont dans le train. Et ça, c'est intéressant. Alors, Manuel, pour Manuel, en Covid long, qui a été infecté lors du premier confinement sur son lieu de travail, les séances en visioconsultation lui ont permis de se remettre en mouvement. Pour elle, il n'est pas question de mettre de visage et de corps, ce n'est pas le propos en distanciel. Par le biais de nos écrans, nous pouvons nous retrouver malgré la distance qui nous sépare. J'ai cherché à représenter l'espace de ma pièce, habité par la voix de l'art thérapeute, un cadre fermé et sécurisant. Cet espace permet que les choses se transforment. J'ai dédoublé les lettres de entre-deux en créant des ouvertures pour que le regard puisse passer. Alors ça a été une des premières questions dont j'ai travaillé au début du confinement. J'avais commencé le DU de cyberpsychologie avec Serge Tisseron et Frédéric Tordeau. Donc, on n'était pas encore confinés. Après, on est passé en cours en distanciel parce qu'on était confinés. Et les premières questions qui se sont posées en psy, puisque ce sont des psys, qu'est-ce qu'on donne à voir? Et ce sont des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. C'est pourquoi derrière moi, il n'y a rien du tout. Pour garder la neutralité et parce que c'est difficile aussi de transmettre aux personnes puisqu'elles ne se rendent pas compte qu'on est là. Soit elles se sentent complètement espionnées, soit elles nous oublient. Donc, c'est difficile qu'elles se rendent compte qu'on voit tout. Et en général, les connexions se font dans leur chambre, donc on voit toute leur chambre. Donc, le cadre de ce qu'on donne à voir est vraiment très, très important. Je travaillais avec des personnes, des enfants qui avaient été incestés. Donc, quand on s'est mis à prendre les ateliers en distanciel, je n'ai pas pu tenir. Parce que c'était chez elle et les agresseurs étaient dans l'appartement. Comme ce sont des enfants, les parents doivent être là, alors que quand vous les prenez en cabinet privé, les parents ne sont pas forcément là, mais ils sont surtout dans la salle d'attente. Et là, ce n'était pas possible. Et alors, du coup, je voyais passer des choses. C'était les parents qu'il fallait prendre en atelier, pas les enfants. C'était assez curieux. Donc là, j'ai été obligée d'arrêter et je travaillais avec Innocence en danger. Alors, Sof s'est penchée sur cette question en tant qu'art thérapeute. Elle est art thérapeute et alors, c'est une de mes personnes contrôle. Ce lieu d'échange que devient l'écran n'a rien d'anodin et l'on doit en permanence veiller à ce que l'on donne à voir durant ces séances. Qui perdent de leur neutralité. Et tout le monde sait que la neutralité fait partie des quatre accords de l'art thérapeute que je suis et que je les revendique avec véhémence, neutralité, bien-traitance, écoute et congruence. Pour ceux qui ont des difficultés à suivre, alors que faire? Finalement, en ouvrant sur l'espace privé de l'art thérapeute, l'écran donnerait à voir un peu plus de son intimité que la neutralité en présentiel. Est-ce cela qui accélère le transfert?